Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Nous avons entendu, déjà il y a 5 semaines, un docteur de la loi venir poser cette question à Jésus pour tenter de l'embarrasser. C'était l'évangile du 12e dimanche après la Pentecôte, et la réponse était très claire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est encore un piège tendu par un docteur de la loi, mais un peu différent. La question cette fois-ci est: quel est le plus grand commandement ? À vrai dire, c'est une question un peu étonnante, surtout venant d'un spécialiste, un docteur de la loi, parce que normalement, la loi a un but. On ne fait pas des règlements pour le plaisir de faire des règlements. Ils sont ordonnés à une fin. Et dans ce cas-là, l'ensemble des lois est aussi ordonné à une fin, et les lois sont d'autant plus importantes qu'elles se rattachent davantage à cette fin. Mais visiblement, les pharisiens ne voyaient pas les choses ainsi. Il y avait pour eux tout un ensemble de prescriptions très importantes et ils s'attachaient surtout à l'exécution matérielle de chacune d'entre elles, ce qui leur apparaissait beaucoup plus important que de vivre de l'esprit de ces lois. D'où cette question: quel est, parmi tous ces commandements, cette masse de commandements qu'il y avait dans la loi juive, quel est le plus grand, le plus important? Notez que, dès qu'on voit les choses comme ça, notre Seigneur aurait pu répliquer en demandant de préciser la question. Qu'est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, le plus grand commandement? Est-ce que ça veut dire le plus haut, c'est-à-dire le plus noble, le plus élevé? Ou bien au contraire, le plus profond, celui qui est inscrit le plus intimement en nous, dans les racines de notre être, on pourrait dire le plus vital? Ou bien, est-ce que le plus grand, c'est le plus large, le plus étendu, celui qui va exiger le plus d'actes? Ou bien est-ce que c'est le plus long dans le temps, celui qui va demander davantage de persévérance? Ou bien est-ce que c'est le plus lourd? Notre Seigneur aurait pu ainsi finasser, ergoter, mais non. Il répond tout de suite comme un maître ayant autorité, et il invoque la loi qui a déjà été donnée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tel est le premier commandement. Et le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces commandements, qui ainsi sont réunis en un seul, résument toute la loi et les prophètes. Autrement dit, notre Seigneur remet les choses dans l'ordre. Il faut regarder le but, la fin. Et dès lors qu'on voit que nous sommes faits pour Dieu, pour aimer Dieu, qui seul peut nous satisfaire, nous donner le bonheur, tous les commandements s'unifient parce qu'ils tendent tous à la charité. Et donc, l'amour de Dieu et du prochain résume tout. Remarquez que notre Seigneur répondait ainsi en même temps à toutes les questions que nous avons posées. Car le commandement de l'amour de Dieu est certainement le plus haut de tous les commandements. C'est le plus noble, le plus élevé, parce que justement, c'est lui qui va nous approcher de ce qu'il y a de plus élevé, qui est Dieu. C'est en même temps le commandement le plus profond, le plus vital, celui qui est vraiment imprimé en nous, dans les profondeurs de notre être, parce que de même que le poumon est fait pour respirer, et que s'il est privé d'air, il commence à tendre, à souffrir et à tendre vers l'air de toutes ses forces, eh bien, de même, nous sommes faits pour Dieu. Et la principale peine de l'enfer sera justement cette privation de Dieu. Et le damné, comme un poumon privé d'air, se retrouve privé de Dieu et comme asphyxié. La le commandement de l'amour de Dieu est donc le plus haut, le plus profond, c'est aussi le plus large, puisque tout peut s'y résumer. Notre Seigneur le dit, la loi et les prophètes. On peut dire que c'est aussi le plus long, parce qu'il durera toujours. Saint Paul le dit très clairement, la charité durera toujours. Ça n'est pas le cas de toutes les vertus. La foi, par exemple, disparaîtra. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de la foi, nous verrons. L'espérance disparaîtra aussi, nous n'aurons plus besoin d'espérer. En revanche, la charité, elle, restera. Et donc, nous continuerons à aimer Dieu et ça restera toujours notre fin. On peut même dire que si la charité durera toujours, qu'elle existe depuis toujours, puisque Dieu qui est éternel, est précisément charité. On peut donc dire que cette loi, amour de Dieu, amour du prochain, était déjà en quelque sorte la loi de Dieu lui-même. Et déjà sous ce double aspect, parce que précisément, il y a plusieurs personnes en Dieu. Et donc l'amour du prochain, donc l'amour de Dieu existait en Dieu, c'est évident, Dieu ne pouvait pas s'aimer lui-même, mais l'amour du prochain aussi, existe en Dieu de toute éternité, puisqu'il y a en Dieu ces trois personnes. Et donc, notre Seigneur, lorsqu'il répond ainsi aux pharisiens, lorsqu'il donne cette loi, exprime ce qu'il fait de toute éternité. De toute éternité, il aime son Père, qui est Dieu, et par qui il est engendré éternellement. Il l'aime en tant qu'il est Dieu, il l'aime en tant que prochain. Et de cet amour du Père en tant que prochain, procède la troisième personne, le Saint-Esprit. Donc, le commandement de l'amour de Dieu est le plus haut, le plus profond, le plus large, le plus long. En revanche, il n'est pas le plus lourd. Et là, c'est même l'inverse. On peut dire, c'est le plus léger de tous et celui qui doit nous alléger tous les autres. Car enfin, qu'y a-t-il de plus naturel et de plus doux que d'aimer quelqu'un qui est si aimable, quelqu'un qui a été si bon pour nous. Tout ce que nous avons reçu de bon et tout ce qui existe de bon vient de lui. Il est la bonté même. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer? Et nous devons nous rattacher à ce commandement de l'amour de Dieu, nous rappeler que c'est lui qui rassemble tous les autres, pour justement y trouver la force d'accomplir tous les autres commandements qui, eux, peuvent, dans certaines circonstances, être plus ou moins onéreux. Donc le commandement de Dieu, le commandement de l'amour de Dieu est léger, c'est ce que nous dit notre Seigneur, « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». On peut quand même se poser encore quelques questions. Et notamment, on peut se demander pourquoi est-ce que notre Seigneur et le bon Dieu ne nous ont pas commandé l'amour de nous-mêmes. Vous remarquez, on commande aimer Dieu, aimer le prochain. Est-ce qu'on ne doit pas aussi s'aimer soi-même? Réponse, oui, nous devons nous aimer nous-mêmes. D'ailleurs, c'est dit implicitement puisqu'il est dit qu'on doit aimer le prochain comme soi-même. Donc, le modèle de l'amour du prochain, c'est l'amour que nous avons naturellement pour nous-mêmes. Mais justement parce que c'est très naturel et qu'il est impossible de ne pas s'aimer d'une certaine façon soi-même, il était inutile de le dire. En revanche, ce qui est important, c'est de bien s'aimer soi-même. Parce que c'est là souvent qu'est la dérive. L'amour de soi, qui est une bonne chose, dérive en égoïsme quand on s'aime mal. Et particulièrement quand on s'aime davantage que le bon Dieu. Et c'est sûr que si on s'aime davantage que le bon Dieu, étant donné que notre fin est en Dieu et non pas en nous-mêmes, eh bien on fera notre malheur tout en croyant poursuivre notre bien. Et donc la seule façon de bien s'aimer soi-même, c'est d'aimer Dieu. Et en aimant Dieu, on est sûr de bien s'aimer soi-même. Une autre question qu'on pourrait poser, c'est de comparer ce commandement qui est ici donné par notre Seigneur, aimer Dieu et aimer le prochain comme soi-même, et dont notre Seigneur dit que c'est le résumé de la loi et des prophètes, on pourrait comparer cela avec ce que notre Seigneur dit à la dernière scène, lorsqu'il dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Et quel est ce commandement nouveau ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors on pourrait poser la question, alors est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est ancien ? Est-ce que ce commandement d'aimer le prochain, c'est le résumé de toute la loi et des prophètes ? Ou est-ce que c'est un commandement nouveau qui est apporté par notre Seigneur Jésus-Christ ? Eh bien, ce qui est nouveau, c'est le modèle donné par notre Seigneur. Et vous remarquez que lorsqu'il répond ici au docteur de la loi, il dit « Aimez le prochain comme soi-même ». Et ça, c'était déjà dans la loi ancienne. Mais le commandement nouveau, c'est d'avoir comme modèle notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il est sûr que cet amour héroïque de notre Seigneur, qui est venu donner sa vie pour nous, est un amour bien plus élevé que celui qui servait de modèle dans l'ancienne loi. Alors pourquoi notre Seigneur ne dit-il pas cela directement à ces pharisiens qui viennent l'interroger ? Eh bien parce que pour le comprendre, il fallait d'abord admettre que notre Seigneur était Dieu et admettre sa mission qui était de venir sauver les hommes. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de cet évangile, notre Seigneur essaie de faire réfléchir les pharisiens sur lui-même et de leur faire comprendre qu'il est Dieu, parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir aller jusqu'au bout de la compréhension de ce commandement de la charité. Et pour cela, il leur pose une question, il leur demande « Mais le Messie, ce Messie que vous attendez, de qui doit-il venir ? De qui est-il le Fils ?» Et immédiatement, tous répondent « De David », parce que tous les Juifs savaient et savent encore que le Messie doit être un descendant de David. Et notre Seigneur invoque alors un des psaumes de David, composé par David, et une des phrases dans laquelle David, parlant au Messie, l'interpelle comme étant « mon Seigneur ». Et tous les Juifs admettaient que ce passage se rapportait au Messie. Et il leur pose donc la question, mais alors, si David, il y a plusieurs siècles, a déjà désigné le Messie, qui était un de ses fils, quelqu'un qui n'était pas encore né et qui sera inférieur à lui en tant que fils, pourquoi est-ce qu'il l'a appelé de ce nom de Seigneur ? Normalement, c'est le père qui est plus grand que le fils. Et comment donc David a-t-il déjà, il y a plusieurs siècles, parler au Messie en l'appelant de ce nom de Seigneur? Et la réponse évidente était que le Messie devait être plus grand que David. Il devait, d'une certaine manière, procéder de lui en tant qu'homme, mais il devait être plus grand en tant que Dieu. Et c'est à cette foi, en sa divinité, que notre Seigneur veut mener les docteurs et les pharisiens. Mais ceux-ci ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas répondre. Donc notre Seigneur ne peut pas aller plus loin dans la révélation de la morale évangélique et il s'en tient à dire, ce qui était déjà dans l'ancienne loi, qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout et aimer le prochain comme soi-même sans se donner lui-même en modèle comme il le fera à la dernière scène. En conclusion, profitons bien de cet évangile pour nous rappeler l'obligation que nous avons tout simplement d'aimer Dieu. Et évidemment, quand on aime quelqu'un, on pense à lui. Dire qu'on aime quelqu'un à qui on ne pense jamais, c'est assez surprenant, assez étonnant. Alors vous me direz, on ne peut pas penser à Dieu à chaque instant, alors qu'on doit toujours aimer Dieu. C'est vrai, notre psychologie humaine est assez faible, mais on peut faire là une comparaison. Imaginez que l'un d'entre vous ait dû s'éloigner d'Angers ou de sa maison pendant assez longtemps et qu'il doive revenir à pied et qu'il se dirige donc vers Angers. Il n'est pas obligé, à chaque pas qu'il va faire dans la bonne direction, de se dire « je vais à Angers, je vais à Angers, je vais à Angers ». En revanche, il faudra qu'il se soit orienté dès le départ dans la bonne direction et donc qu'il sache où il va. Et puis ensuite, la question se posera à chaque fois qu'il arrivera à un carrefour, parce que là, oui, il devra savoir s'orienter et ne pas aller à droite ou à gauche au hasard, mais bien prendre toujours la direction d'Angers. De même, quand un voyageur qu'il rencontre l'interrogera « Où vas-tu ? » Il ne répondra pas « je vais à l'arbre qu'on voit là-bas », même si de fait il va passer près de l'arbre qu'on voit là-bas. Il donnera la direction finale, il dira « je vais à Angers ». Et quand il sera pris par la fatigue, il aura envie de s'arrêter, qu'est-ce qui va ranimer son courage? C'est la pensée du but à atteindre, surtout s'il rentre chez lui, donc il se dira « je rentre à ma maison, je vais à Angers ». Eh bien, il en va de même pour nous. Dans notre vie chrétienne, nous devons d'abord nous orienter vers Dieu. Ensuite, chaque fois que nous faisons ainsi des pas dans notre devoir d'État, du moment que nous sommes orientés vers Dieu, ce sont des pas dans la bonne direction et des actes de charité qui vont nous rapprocher de lui. Mais régulièrement, nous devons nous rappeler ce que nous faisons, et donc nous, notamment à chaque croisement, à chaque changement important d'action, nous devons bien faire attention de nous réorienter vers Dieu pour ne pas partir dans une mauvaise direction. De même, quand nous nous sommes interrogés, comme quand on nous demande où nous allons, nous devons pouvoir dire ben, « je vais à Dieu, je vais pas seulement faire telle action immédiate, mais toujours nous rappeler, souvent, mon but, c'est Dieu, atteindre l'amour de Dieu. » Et quand nous sommes fatigués, nous avons des tentations de paresse ou autres, il faut ranimer en nous cette volonté d'atteindre Dieu, cet amour de Dieu, et nous dire « oui, mon Dieu, je vous aime, c'est vous qui êtes mon but, je veux tendre à vous. » Et ainsi, l'amour doit être fréquemment réveillé dans notre âme pour nous aider à ne pas nous égarer, pour nous aider à avancer plus énergiquement et pour nous aider à entraîner les autres dans la bonne direction. Pour cela, nous devons fréquemment dans la journée, par de petites phrases intérieures, dire à Dieu qu'on l'aime. « Mon Dieu, je vous aime » ou bien « Mon Dieu, je vous aime plus que tout » ou bien « Mon Dieu, j'aime telle personne pour vous ». Ce qu'on peut dire pour tout le monde, et on peut le dire aussi bien pour les personnes envers qui on a naturellement de l'affection, et ça nous aide à surnaturaliser cette affection, en disant « mon Dieu, cette personne, je veux qu'elle arrive à vous, et c'est pour vous que je veux l'aimer ». Ou bien les personnes avec qui on a plus de difficultés, c'est aussi de penser au bon Dieu qui va nous aider à leur manifester de la charité. « Mon Dieu, j'aime telle personne pour vous ». Ou bien « mon Dieu, je veux vous aimer ». Ou bien « mon Dieu, apprenez-moi à vous aimer ». Essayons de choisir une de ces formules ou une autre avec nos mots à nous, mais de la répéter souvent dans la journée pour toujours faire grandir en nous cette charité. Et nous pourrons faire ça en pensant à la Sainte Vierge, puisque si quelqu'un réussit à aimer Dieu à chaque instant, de telle façon qu'on peut dire que chacune de ses respirations était un acte de charité plus fort, plus intense, plus ardent que celui qui avait eu lieu la minute précédente, c'est bien la Vierge Marie. Donc demandons-lui de nous apprendre à aimer Dieu et à penser à lui dire qu'on l'aime au cours des journées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.